C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout.
Il y a une hausse de tarifs d'électricité qui est annoncée par Hydro-Québec, une hausse prévisible. C'est l'année prochaine qu'elle va entrer en vigueur. On parle de 3 %. 3 %, c'est quand même important comme hausse. On le mesure mal, mais d'habitude, la moyenne des hausses, c'est autour de 1,3 %. Et je pense qu'il est mal avisé qu'on laisse aller cette hausse-là, pour plein de raisons. Premièrement, je sais qu'il y a un mécanisme qui empêche le gouvernement. C'est un mécanisme qui a été mis en place, en fait, pour la CAQ, qui fait qu'on peut réviser à chaque 5 ans les tarifs hydroélectriques au Québec. Hydro-Québec, c'est à nous autres. Hydro-Québec, c'est nous autres. Moi, je suis pas d'accord qu'on ne puisse pas aller contourner ces mécanismes-là en temps de pandémie. Le premier ministre hier a dit que la pandémie est terminée. La réalité, c'est que les effets de la pandémie sont loin d'être terminés. La pandémie a taxé les payeurs de taxes, souvent en perdant leur emploi, souvent en ayant des conditions plus précaires que la normalité. Exemple, il y en a un dans le journal ce matin, tes enfants qui sont malades. Il y a eu combien de journées de travail perdues parce que faut que tu ailles t'occuper de tes enfants qui sont testés à l'école puis faut qu'ils sortent. C'est de la pression additionnelle sur des ménages. C'est pas tout le monde qui a les moyens de payer toutes les hausses qui arrivent dans la vie. En fait, on est assez peu, il y a assez peu de gens qui peuvent prendre une hausse du tarif d'électricité sans que ça change rien dans leur budget. La pandémie a aussi grevé le moral des gens. La pandémie, là, ça a été dur sur le mental. On le sait, on en a même parlé hier. Encore des jeunes hommes, des jeunes femmes, des mères monoparentales, des gens qui ont dû vivre vraiment un bout rough en bon québécois. Et tout augmente présentement. On assiste à quelque chose de spectaculaire. Le panier d'épicerie, on le sait, là, depuis 2-3 ans. Ouais. Les 2-3 dernières années, c'est monstrueux comment ça augmente. Et c'est une différence, là. Ton 20$ de moins par mois que t'as, je peux pas le mettre sur l'hydro. C'est de l'argent qui nous manque à un moment donné. Le prix de l'essence, cette semaine, on était à quoi? On en a certaines places. 1,70, le super. Ouais.
C'est fou.
Je veux dire, le coût de la vie directe. Pas la vie hypothétique dans 20 ans. Pas la vie dans 5 ans. Même pas dans un an, la vie aujourd'hui est chère, comme elle a jamais été chère, et les gens ont de la pression. On est surmenés. Vous êtes le gouvernement, ceux qui sont le législateur. C'est vous autres qui avez fait ces lois-là. Puis j'appelle même Hydro-Québec à revoir cette décision-là de la hausse des tarifs. Le ministre Jonathan Julien, qui est responsable des ressources naturelles, lui, il dit, ouais, mais on se magasine un choc tarifaire en 2025. On se magasine rien. C'est à nous autres. Hydro-Québec, c'est à nous autres. On magasine bien ce qu'on veut magasiner. Mettez votre poing sur la table. Je suis d'accord que vous fassiez une exception, puis de contourner une loi qui est en place. Puis je pense que le reste de la Chambre est de cet avis-là aussi. Toutes les oppositions sont unanimes. Là, ça va faire. Il va falloir qu'on donne un peu de lest aux gens qui en ont le plus besoin. Vous avez, M. le Premier ministre, hier, fait un appel à la cohésion sociale. Ça commence là, la cohésion sociale. Hydro-Québec, c'est un symbole. Hydro-Québec a force de symbole. Vous êtes dans une position où vous pouvez changer les choses pour le mieux, pour les plus petits. Moi, si j'étais à votre place, je le ferais.
T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques!
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Merci de vos nombreuses réactions sur la messagerie texte. Je suis touché de vous savoir touché par le message que j'ai passé. Puis comprenez bien une chose, là. Je le sais que le gouvernement a des revenus d'Hydro-Québec. Moi, mon point, là, c'est qu'on est capable d'attendre un petit peu. On vient de signer des contrats pour 25 milliards d'exportations aux États-Unis. On est capable de prendre la facture cette année, puis l'année prochaine même, pour aider ceux qui en ont besoin. Puis je le dis, là, 20$, ça change la vie de bien du monde des fois dans une semaine.
Et depuis un an et demi, c'est pas nécessairement facile. Il y a Nina Blanchard qui nous écrit, entre autres, sur la messagerie texte. Elle dit, à t'écouter ce matin, là, Martin, j'ai le cœur qui devient gros, les larmes qui montent. Je viens de finir ma saison à mon travail. Elle dit, moi, je reçois 320$ sur mon chômage. J'ai 3 enfants qui vont à l'école. Avec mon petit salaire, je paye l'épicerie, puis il me reste plus grand-chose. Merci, Martin, de dire tout haut ce que les gens comme moi disent tout bas.
Et je trouve ça formidable, les gens, sur le messagerie texte, il y en a qui disent, j'ai des frissons, puis tout ça. Puis c'est cool, Martin, quand tu prends position comme
vraiment.
Ça. Puis je trouve que tu structures bien tes choses.
Mais ça donne le vertige quand même.
Mais je me demande quand même pourquoi c'est jamais comme moi qui a ce mandat-là.
Ah ouais, t'aimerais ça te prononcer?
Il me semble que je suis un gars d'opinion, on le sait, et avec des convictions fortes.
Est-ce que tu veux qu'on essaie?
Ben, tu peux, Billy.
Parce que là, ce qu'on pourrait faire, c'est... Ouais, Martin, on vient de l'entendre. Il a été extraordinaire. C'est sûr que la barre est haute. Okay. Par contre, est-ce que tu veux prendre position sur le même, le même sujet?
Ouais.
OK, alors, je te pose la question. Billy, si tu avais à discuter des augmentations de 3 % d'Hydro-Québec, qu'est-ce que tu aurais à dire?
Hey, Hydro, hein? T'augmentes le 3 % là? Non. 3 % là? On est-tu du lait crémeux? Non. Ça va faire. Ça va faire. Tu sais, Hydro, là, c'est à moi. Hydro, c'est à toi. Hydro, c'est à tout le monde, sauf à ceux qui ne savent pas, OK? Puis, là, mané, le gouvernement, faut qu'il comprenne qu'on est à bout de pourpoint. Puis, là, avec la pandémie, on est tous pognés au cou. Puis, il y a plein de monde là-dedans qui se sont mariés avec leurs enfants. Puis, que le mois, il arrive. Puis, il arrive pas au bout du mois. Je veux dire, il arrive au mois, mais le mois, lui, l'autre, il change. Puis quand l'autre y arrive, ben ils sont déjà dans l'autre en arrière. Fait que ce qu'ils font, c'est que ça accumule des mois. Puis ça, les gens, ils peuvent plus. Le peuple, là, ils l'ont plus.
Ils peuvent plus.
Ils l'ont plus, le peuple. Fait que là, à un moment donné, là, il y a le mois, puis le gel, puis ça gèle pas ce mois-là. Fait que Hydro, là, allume.
Sur la messagerie texte, Billy, il y a beaucoup de messages qui rentrent. Il y a des gens qui disent « Je suis ému, Billy. Merci de mettre en mots clairs ce que je pense. » Il y a des gens qui te proposent de créer un nouveau personnage. Peut-être pas dans les petits mondes parce qu'on a senti que c'était sérieux.
Okay.
Mais donc, créer Billy, l'homme de position.
Ça me fait plaisir. Mais au moins, ouais. Je suis un peu un porte-étendard.
Ouais, Karine dit « Merci, Billy. C'est drette ça que je voulais dire. »
Moi aussi, je peux être la ouais. Torche du monde, là, tu sais, le flambeau bien haut, là. Ça va me faire plaisir d'être la voix de la populace.
Ouais. Ben, écoute, honnêtement, la messagerie
texte. Martin, en même temps, je voulais pas t'enlever ta place, là, moi, dans l'émission, mais.
Honnêtement, ça... inquiète-toi pas. Aie pas peur.
Ah, j'ai trouvé ça bon, là.
Mais vas-y à fond, Billy. Calme.
Arrêtez!
Il y a des gens sur la messagerie texte aussi, Billy, qui se demandent si c'est Tammy qui était absent depuis les derniers jours qui a rédigé ce speech.
Non, ça vient vraiment de mon cœur.
OK.
Le meilleur des comiques, sur demande.
Avec la pénurie de main d'œuvre, ça se peut qu'on doive engager des personnes qui sont pas idéales pour le travail.
Ouais. Hein?
Retournons donc écouter cette radio communautaire qui a eu la mauvaise idée d'engager un DJ de bar de danseuse.
Vous écoutez la radio de Sainte-Monique-sur-le-Lac, la radio Soleil FM.
Ah! Ici, DJ Love. En direct de la radio de Sainte-Monique-sur-le-Lac.
Oh, oh.
Et sa petite communauté de 732 habitants. Oh, qu'il en rentre du monde dans Sainte-Monique. Ah. Vous l'avez vidée, elle est collante et elle traîne sur le comptoir.
Mais ouais.
Les scouts vous ramassent la canette. Ah. Besoin d'un point de dépôt. Le salon de coiffure, l'oasis pour elle. Tannée des nœuds, venez voir les reines du ciseau.
Astrologie.
Astrologie. Oh, qu'elle est pleine et ronde cette lune. Attention, les béliers, faites confiance à la vie. L'Uranus se rétrograde. J'ai le taureau à 100 dans le cochon.
Le babillard.
Mais rien, c'est quoi ça?
Cours de poterie.
Mais non!
Mesdames, laissez les doigts d'experte de Suzanne Champoux vous montrer comment façonner votre vase.
Ton rayon du matin, la radio Soleil FM.
Oh! Ah! Mais on a besoin de votre groupe sanguin. c'est la collecte. Et Madame X veut nous en parler.
Ben voyons, pourquoi vous changez ma voix? C'est Pierrette, l'infirmière du CLSC.
Oh, Madame X, vous avez besoin de notre poche.
Ouais, ben c'est parce que nos réserves, ils diminuent.
Oh là là, Madame X est en manque.
On est présentement sur la corde raide.
Ah, la corde raide. Ça me rappelle cette soirée de bandage au manoir. Corsla, on me fait signe que je n'ai pas le temps.
En tout cas, on vous attend, grand homme.
Il faut donner pour mieux recevoir. Allez, préparez votre plus belle veine.
Les mercredis noirs.
En route vers l'Halloween, on m'a demandé de vous conter une histoire qui donne la chair de poule. Une femme seule fait un casse-tête dans son salon. Oh, plaisir solitaire. Dehors, il fait noir et tout comme le club, c'est l'orage. Plus elle place des morceaux de casse-tête, plus elle réalise que l'image de son casse-tête, c'est le décor de son salon et d'elle-même vue de face.
Voyons.
Malgré la peur qui l'habite, elle décide de terminer le casse-tête. Mais la dernière pièce du casse-tête, c'est le visage terrifiant d'un homme derrière elle. Oh, la levrette.
La radio Soleil FM.
Vous avez une demande spéciale. Vous pouvez toujours me contacter à mon adresse courriel.
Oh, oui.
Big Fat Daddy Nippleman. Ah, commercial. La radio Soleil. .com. Et on s'en va en chanson. Ah, l'amour oral. La satisfaction de donner des sensations à sa partenaire avec cet instrument du plaisir.
Dans cette langue belle couleur de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence.
DJ Love. T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
C'est quoi? Je veux juste faire un petit avertissement. Dans un instant, ben, dans quelques secondes, on va aborder un sujet. C'est un sujet un peu d'horreur, on va se le dire. S'il y a des tout petits dans l'auto, peut-être un peu baisser le son ou en tout cas faire attention parce que c'est un petit peu plus intense qu'Hôtel Transylvanie. On va se le dire, ce qui va être raconté dans quelques instants. On parle de possession d'esprit avec Christian Page.
Qui sont ici?
Je ne sais pas quel esprit plane sur cette maison.
Je vois des gens qui sont morts.
Et tu en vois souvent?
Tout le temps.
Les mercredis noirs avec Christian Page.
Salut Christian.
Salut Dominique, salut la gang.
Salut Christian. Allô? Écoute, Christian, moi c'est Martin, mais c'est pas grave, tu peux m'appeler comme tu
veux. Déjà, j'ai peur.
T'es dans le bon duo.
OK, c'est bon.
Oui. Hey, Christian, tu nous parles de quoi aujourd'hui?
Ben aujourd'hui, je t'amène en Allemagne, à Klingenburg-Onheim. C'est une petite ville industrielle qui se trouve en Bavière. On est dans le sud-ouest de l'Allemagne. Okay. Et notre histoire met en vedette une jeune femme du nom d'Anneliese Michel. Anneliese, c'est l'aînée d'un groupe de 4 filles. Elles sont les enfants de Joseph et Anna Michel. C'est un couple de classe moyenne qui exploite une scierie à la sortie de la ville. Ce sont des gens aussi qui sont très impliqués dans la vie paroissiale. Okay. En fait, je le dis de cette façon-là pour être poli, mais ce sont de véritables grenouilles de Binity. Hein. Ils ne manquent jamais une célébration dominicale à la maison. Les cadres et la décoration, c'est toujours des cadres de Jésus, la Sainte Vierge et autres bondieuseries. Et Anna Michel, bien sûr, contrôle ses filles à un point tel qu'elle refuse que ses filles aillent visiter des amis si ces mêmes amis ont des frères à la maison, de peur qu'il y ait des gestes déplacés qui soient posés. Donc, okay. Tu vois, c'est un contexte excessivement hermétique et c'est dans ce contexte ultra-religieux que va apparaître notre histoire, dans lequel va grandir Anneliese Michel avec des convictions religieuses qu'elle partage, il faut bien le souligner. Et donc, notre histoire débute alors que la jeune fille est âgée à peu près de 16 ans. Elle a toujours été de santé fragile et et voilà soudain qu'elle commence à avoir des absences, comme si elle tombait dans la lune pendant quelques instants, mais au sortir de cet état-là, elle ne garde aucun souvenir. Okay. Elle en parle donc à ses parents, qui vont consulter, et là, sans la preuve médicale, on passe toutes sortes des batteries de tests à Annelise, mais on ne trouve absolument aucun symptôme pathologique, mais les médecins concluent qu'elle doit souffrir d'une forme bénigne d'épilepsie. Donc, on lui prescrit des anticonvulsifs, mais en espérant pouvoir contrôler son mal, mais les mois, sinon les années passent sans que la chose s'améliore. Tant et si bien qu'on retrouve Annelise au début de la vingtaine. Elle fréquente l'université de Wisburg. Elle a développé des comportements tout à fait antisociaux. Elle est parfois agressive. À la sortie des cours, elle se réfugie dans sa chambre du campus où elle a monté dans sa chambre un petit autel dédié à la Vierge Marie. Elle reste prostrée devant cet autel pendant de longues heures. Elle récite des chapelets et ses périodes d'absence sont encore là. Mais cette fois, elle s'accompagne de visions diabolique. Elle voit des démons. Elle en parle à ses parents et ses parents décident de consulter à nouveau. On parle encore d'épilepsie. Ses parents n'y croient pas trop. Alors, on est Annelise alors qu'elle a 22 ans. On est au début de 1975. Les parents décident de délaisser les hommes en blouse blanche pour se tourner vers ceux en soutane noire. Ils sont persuadés que leur fille est possédée par le démon. Au début 1975, l'affaire remonte un peu dans la hiérarchie ecclésiastique, et voilà que l'évêque de la paroisse, Joseph Stengel, conclut que la jeune fille doit être possédée par le diable et va autoriser l'exorcisme. Il va choisir deux prêtres, les pères Hans et Alt, pour être les prêtres exorcistes, et en septembre 1975 va débuter les rituels de l'exorcisme. Mais ça, on s'en reparle après notre interlude musical.
On est dans les mercredis de l'horreur en compagnie de Christian Page, en marche vers l'Halloween, en plein milieu de l'histoire d'Annelise Michel. Christian, donc, débute les séances de d'exorcisme.
Voilà, donc on est en septembre 1975. Annelise vient de fêter son 23e anniversaire. Elle vit enfermée dans une chambre dans la maison de ses parents. Elle ne se nourrit plus. Elle se contente de manger des insectes et des araignées qu'elle trouve dans sa chambre. Elle ne boit plus non plus. Elle urine dans ses sous-vêtements qu'elle essore dans sa bouche. Elle se frappe la tête contre les murs. Elle est violente contre elle et contre les gens qui la visitent. Elle parle d'une voix gutturale. Elle est convaincue d'être possédée par au moins 6 démons ou 6 entités malveillantes, parmi lesquelles Hitler et Lucifer. Donc, c'est à ce moment-là que débutent les séances d'exorcisme. L'état d'Annelise est tellement dramatique que les prêtres doivent l'attacher à son lit pour éviter qu'elle ne se blesse davantage. Et là, on entreprend, durant une longue période, entre septembre et juillet 1976, elle va être soumise à près de 70 rituels d'exorcisme. Elle parle d'une voix gutturale, elle vocifère contre les prêtres, et tout ça est enregistré sur des bandes magnétiques. On écoute un court extrait d'Annelise qui vocifère contre les prêtres. C'est un enregistrement tout à fait authentique.
Ich bin Nero. Ich bin der Dritte im Bunde.
On dirait Tammy qui perd un quiz.
Mais Christian, on comprend qu'elle parle allemand, donc c'est mon Dieu Seigneur. Ok, ça fait peur, là.
Et voilà. Et le 1er juillet 1976, après 68-69 rituels d'exorcisme, les parents d'Annelise, en entrant dans la chambre de leur fille, la trouvent morte sur son lit. Les médecins légistes vont conclure qu'elle est décédée de malnutrition et de déshydratation. Ils refusent de libérer un certificat de décès de mort naturelle, et éventuellement, les autorités se retrouvent avec cette histoire-là entre les les mains. Il va y avoir un procès qui débute l'été suivant, presque une année jour pour jour après la mort d'Annelies Michel. Et à cause de ce procès, c'est sans aucun doute l'histoire d'exorcisme la mieux documentée, parce que bien sûr, il va y avoir un bras de fer entre la science officielle, les médecins qui continuent de prétendre qu'Annelies devait être atteinte d'une forme d'épilepsie, et bien sûr les prêtres et les parents d'Annelies qui sont accusés d'homicide involontaire de non-assistance à personne en danger, parce qu'il faut voir les photographies. Hein. Cette jeune fille pétante de santé à 22 ans a de l'air d'une survivante d'un camp de la mort nazi au moment de son décès. Elle n'a plus que la peau et les os. Éventuellement, les parents seront reconnus coupables uniquement de non-assistance à personne en danger et seront libérés immédiatement compte tenu du temps qu'ils ont passé durant leur garde à vue derrière les barreaux. Cette histoire-là, aujourd'hui, a inspiré évidemment de nombreux films et livres. On en connaît un en particulier ici en Occident, là, le film L'exorcisme d'Émilie Rose, en 2005, qui était inspiré de l'histoire d'Annelies Michel. Et je dois t'avouer, Martin, que quand les médecins regardent aujourd'hui avec le recul l'histoire d'Annelies Michel, on n'arrive pas à un consensus. On parle plutôt, est-ce qu'elle était possédée réellement par des entités malveillantes? Ce n'est pas à la science de dire ça. Mais il est clair qu'elle présentait une pathologie rarissime que les psychologues et les psychiatres appellent aujourd'hui le syndrome de la possession. Donc, un comportement qui laisse croire à une forme de possession diabolique sans pour autant qu'on ait une explication définitive. Une histoire tout à fait tragique, mais en même temps surnaturel.
Vraiment, merci Christian. Et Geneviève Grenier nous écrit sur la messagerie texte instantanée, Science Studio. T'es le meilleur pour conter ce genre d'histoire-là. Merci infiniment, Christian.
C'est moi qui vous remercie.
On se reparle la semaine prochaine, mon ami.
Absolument, avec un poltergeist.
OK.
Oh mon Dieu, ça va de pire en pire au niveau de l'horreur.
Là, tu vas te placer.
Je me sens pas bien, là.
Tu vas te placer un peu, Christian Page. À la semaine prochaine, mon ami.
Salut.
Merci, Christian.
C'est quoi qu'il y a derrière toi?
Arrête de me dire. C'est pas un sujet qui est drôle pour moi, Billy.
Le meilleur des comiques, sur demande.
Debout les comiques.
Sinon, t'as été une criminelle à l'âge de 14 ans.
Ben voyons,
ans.
Oui, OK. J'avais une amie à l'époque dont le père était très permissif. Puis il nous laissait tout le temps. J'allais toujours coucher chez eux, puis on pouvait sortir la nuit. Puis,
OK, correct.
Tu comprends?
C'était très lousse.
C'était très lousse. Et à un moment donné, il y avait un party à trois rues de chez mon amie qui s'appelait Geneviève. Et il y avait la voiture de son père dans le driveway.
Ben non.
Ben oui. Puis moi, je trouvais que c'était loin, trois coins de rue. Et ça tombait que mon amie Geneviève aussi. Non. Et donc, on s'est dit, nous allons prendre la voiture familiale et y aller avec. Fait que là, elle me disait, ben moi, je sais pas comment conduire. Fait que je dis, ben moi, mes parents conduisent manuel. D'après moi, à force d'avoir regardé, je devrais être capable. Et donc, on est embarqué dans la voiture. Et donc, on a volé le char de son père.
Ben,
j'ai réussi à le partir. Puis j'ai réussi à conduire les trois rues pour me rendre jusqu'au party.
Quand même.
Quand j'étais très honnêtement, j'étais une bonne voleuse. Okay. J'étais bonne.
T'étais
je savais
pas en première,
comment ça marche.
Tout le long, là.
Grand Theft
Auto. Non. Okay. Ça marchait bien. Et donc on a fait on était bien fiers d'être arrivés en char. Ben, vous comprenez bien dans les petites rues de Repentigny. Et là finalement le party se termine, mais là on comprend que faut ramener le char.
Ben oui.
Sauf que faut que je vous explique que le driveway de mon amie Geneviève,
oh non,
il est en pente.
Okay. Oh non.
Fait que là, je reviens avec la voiture, puis là, on est devant le driveway, puis là, je me dis, bon, je sais pas comment je vais faire, je vais juste rouler normalement, mais j'y arrive pas. Ben oui, parce que au niveau de la clutch, je suis pas encore assez bonne, tu sais, j'ai vraiment juste 3 minutes de conduite dans le corps, puisque j'ai 14 ans et que j'ai volé le char. Fait que j'ai jamais été capable
de monter la voiture
dans le driveway. Je n'ai jamais été capable. À un moment donné, il a fallu qu'on arrête. On a essayé de pousser la voiture.
Ben voyons!
Ben oui, parce que je me disais, Christophe, il va falloir le monter, sinon on va se faire pogner. Fait qu'on a essayé de pousser la voiture, j'ai essayé de monter la voiture, on a tout essayé, rien n'est arrivé.
T'étais pas capable de le laisser en haut, quoi, de le mettre sur le break à bras, tu savais pas comment.
Je savais pas comment mettre le break à bras, je savais pas comment gérer la clutch pour être capable d'avancer suffisamment, mais pas rentrer dans la maison.
Ben non,
tu comprendras bien que j'avais peur de ça. Fait qu'on a laissé le char à moitié dans le driveway, à moitié dans la rue.
Que c'est louche.
Et oui, et mon amie Geneviève a dû expliquer tout ça à son père le lendemain.
Ouais, son père, as-tu fait comme une solide crise? Ou...
Ben moi, j'avais déjà quitté la maison à ce moment-là. Je te dirais que j'avais pas le goût d'affronter ça.
J'aurais tellement dit, papa, on a pensé prendre ta voiture pour aller à un party. Finalement, on l'a descendu un petit peu du driveway puis on s'est rendu compte de l'erreur qu'on faisait en commettant tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on a tout laissé là.
Ah, c'est donc bien une bonne idée.
Ouais, mais c'est un adulte de 40 ans là, qui suggère à une petite fille de 14 ans quoi dire. Quand t'as 14 ans,
extraordinaire.
Tu penses pas à ça.
Non, mais je vais en parler avec, hey, mes, avec les ados dans laquelle, avec lesquels je vis à la maison.
C'est
si jamais
bon,
ils
parfait.
Vivent quelque chose.
Ils peuvent me texter en tout temps s'ils
ah,
font des erreurs
bonne
comme
idée.
Ça. Je peux les aider.
Parfait.
Hey, sinon, pour vrai, je pense que t'es pas la seule. Juste par curiosité, là, qui a déjà pris le char de ses parents sans,
hey,
sans le
plein.
Demander puis qui avait pas l'âge, mettons. Il y en a plus qu'un, je suis sûr, qui va nous répondre.
Moi aussi.
Sur le 96-9, je le dirai pas publiquement, là, mais entre nous, là, textez-nous ça. Vous avez déjà pris le char de vos parents à leur insu, juste pour rassurer Val. Ah.
Pour plus de tes comiques, écoute 96-9. C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
C'est 23.